Il est 6h, bon réveil. Toute l'actu que l'on va développer.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Dans cette première édition, d'abord cette information de la nuit, un soldat français de 34 ans est mort au combat au Mali. Son portrait dans un instant. En Guyane, situation sanitaire inquiétante. Le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse ainsi que les hospitalisations. Les pêcheurs contre les éoliennes, après les Normands et les Bretons, les nordistes seront dans les rues de Dunkerque ce matin. Et puis le foot avec le PSG, PSG Montpellier ce soir. Messi sera à nouveau absent. Mbappé, lui, fait un début de saison contrasté. Explications à suivre. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet d'Auteuil aujourd'hui. Puis l'interview de Philippe Legrand, une date, une histoire avec l'océanographe Jacques Rougerie ce matin. 6h23, on va partir bien sûr en balade avec Vanessa Zah et Marion Sauveur, escapade à Marseille. Et puis on dégustera des noisettes également dans le Lot et Garonne. La tendance météo, bonjour chère Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien le ciel de la moitié ouest s'assombrit, donnant quelques pluies et des orages. Une autre dégradation orageuse arrive par le sud. L'est et le nord sont plus ensoleillés. Vous l'avez compris, le temps change pour ce week-end.
Météo complète bien sûr à la fin de ce journal.
Europe 1.
C'est donc l'information de la nuit. Il s'appelle Maxime Blasco, un caporal chef de 34 ans qui est mort donc hier en opération au Mali. Annonce de l'Élysée hier soir, il était membre du bataillon de chasseurs alpins de Vars en Isère. Lou Dragnel, on peut parler de véritable héros. Hein.
Oui, on peut le dire, c'est un héros mort au combat. Et toute la communauté des commandos de montagne est aujourd'hui en deuil. Il faut rappeler qu'en 2019, le caporal-chef Maxime Blasco, tout seul, sauve la vie de deux de ses camarades blessés dans le crash de leur hélicoptère. Après les avoir extraits de la gazelle qui vient de toucher le sol, le soldat les porte avant de les fixer à un autre hélicoptère Tigre pour permettre leur évacuation dans des conditions très difficiles. Titulaire de 3 citations, il reçoit des mains d'Emmanuel Macron la médaille militaire au Mont Valérien le 18 août dernier. Alors, pour les circonstances de sa mort, ce membre du 7e bataillon de chasseurs alpins a été envoyé pour traquer un groupe armé terroriste qui évoluait à moto. Dans l'opération, 2 hélicoptères Tigre et 3 Caïmans sont alors déployés. Les terroristes ouvrent le feu sur le caporal-chef Blasco. Touché à la tête, il meurt au bout de quelques minutes. Ses frères d'armes ripostent à leur tour et parviennent à neutraliser le combattant. Quelques minutes plus tard, un drone et une patrouille de Mirage 2000 frappent la zone. Depuis le début de l'opération Barkhane au Mali, 52 soldats français ont été tués et Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques mois une réduction de voilure de cette opération pour privilégier l'action des forces spéciales.
Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Un nouveau samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. 185 manifestations sont à nouveau prévues aujourd'hui et partout en France. À Paris, 4 cortèges sont annoncés dès midi et 14h. C'est dans ce contexte que l'inquiétude grandit en Guyane. 21 décès en une semaine à cause du Covid. Et alors que la population n'est vaccinée qu'à 30%, à l'hôpital, les soignants craignent de devoir recourir au tri des patients. Écoutez, Didier Guidoni, c'est le directeur de l'hôpital Saint-Laurent du Maroni, où il ne reste plus qu'un lit disponible.
On n'a jamais atteint ces niveaux-là au cours des vagues précédentes. Donc c'est très difficile d'abord d'y répondre et d'offrir aux gens les meilleures conditions de prise en charge possible. Les médecins discutent entre eux de qui on admet et qui on n'admet pas en réanimation tous les matins. Les équipes sont très fatiguées. Cette quatrième vague, plus grave que les autres, arrive à un moment où on avait plutôt envie de penser à autre chose. C'est très dur pour les équipes chez moi qui sont en charge de la vaccination parce qu'ils font beaucoup de déplacements sur le terrain, ils font beaucoup de campagnes d'information et ils ont l'impression de inlassablement de répéter des choses et que personne ne les écoute. Et donc, moralement, c'est extrêmement difficile.
Le directeur de l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni en Guyane, joint par Zoé Pallier. La politique avec l'heure du choix pour les Républicains, les militants qui choisissent aujourd'hui non pas leur candidat, mais le mode de scrutin qui va permettre de le désigner. Primaire ouverte au congrès interne au parti. On en parlera dans le journal de 6h30. Ce matin, 10h, dans les rues de Dunkerque, la mobilisation des pêcheurs du Nord contre les éoliennes en mer et ses conséquences, bien sûr, pour les oiseaux et pour les écosystèmes. Hier, ce sont les pêcheurs normands qui protestaient comme Hervé. Il est pêcheur au chalut, notamment à la coquille Saint-Jacques en Baie-de-Seine depuis 25 ans.
On s'occupe plus des marins maintenant. On a décidé d'implanter ça là. Ce qui nous inquiète, la ressource. Détruire des zones de pêche qu'on préserve depuis des années. Qu'eux, ils viennent tout détruire et puis on nous demande rien. Il faudra trouver le poisson, surtout. Ça sera pas gagné. Parce qu'on ne sait pas ce que fait le bruit des éoliennes, ce que fait au fond. On ne sait pas ça. Je veux bien que ce soit de l'écologie, mais pas la bonne. La stabilité, on l'avait, on l'a fait. Il y a eu des sacrifices de fait, mais voilà, maintenant ils veulent nous implanter ça, nous diminuer les efforts de pêche qu'on a fait, bah voilà. Il y aura d'autres mouvements, je pense que le prochain coup, là, c'est pacifique, quoi. On a juste bloqué le port du Havre pendant une heure, et voilà. Qu'au bout d'un moment, ça sera les usines à terre qui produisent les éoliennes qui seront bloquées, hein. Faut pas rêver. Hein. Et là, c'est des millions qui seront perdus. Hein. Faut les mettre à terre, sinon. Hein. On les mettre à Paris, on rigolera. Si les Parisiens accepteront les éoliennes, on rigolera bien.
La colère de ce pêcheur au micro européen de Sandrine Prioul. À retenir en bref, 5 personnes appartenant à la mouvance néo-nazie mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles sont soupçonnées notamment d'avoir voulu préparer une action violente contre une loge maçonnique. Le catalan Carles Puigdemont, arrêté jeudi en Sardaigne, a été libéré et autorisé à quitter l'Italie. La justice doit encore trancher sur la demande d'extradition déposée par l'Espagne. Le leader indépendantiste catalan est poursuivi pour son rôle dans une tentative de cessation. C'était en 2017. Et puis en Allemagne, c'est le sprint final avant des législatives indécises. Angela Merkel bat le rappel pour son dauphin Armin Laschet. Il est donné perdant face au social-démocrate Olaf Scholz. Un faible écart qui rend le scrutin imprévisible. On va s'intéresser à présent à nos smartphones. La Commission européenne a proposé jeudi une directive pour imposer un chargeur universel pour les appareils électroniques et pour nos téléphones portables. Seul Apple, pour le moment, fait de la résistance. Clément Le Saffre, la firme à la pomme, est prête à batailler ferme contre la Commission. Hein.
Oui, une bataille qu'Apple entend mener au nom du droit à l'innovation. L'entreprise californienne utilise depuis 2012 des chargeurs de téléphone avec sa propre technologie, le port Lightning. Plus petit et moins épais que le port USB-C. Problème, ce modèle n'est compatible qu'avec les produits Apple. La Commission européenne estime que cela engendre deux problèmes, un manque de lisibilité pour les consommateurs et une aberration écologique. Les chargeurs de téléphone représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année et c'est pourquoi l'Europe veut imposer un modèle unique qui ne serait par ailleurs plus obligatoirement vendu avec le téléphone pour éviter d'accumuler les chargeurs inutiles dans nos tiroirs. Mais Apple ne l'entend pas de cette oreille. L'entreprise estime que cette décision va décourager l'innovation. Sur ce point, elle rappelle qu'elle a d'ailleurs contribué à améliorer le port USB-C avec ses technologies. Et puis Apple critique le délai d'application de la directive 2024, beaucoup trop court à l'échelle industrielle. Déjà en bisbille avec la commission pour des questions d'impôts et d'abus de position dominante, Apple semble donc prêt à s'offrir une nouvelle bataille sur le sol européen.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Le sport, la Ligue 2, 0 partout hier soir entre Sochaux et Auxerre. Le Paris FC a sombré à Niort 4-1. Et puis l'entraîneur de Nancy a été remercié après un nouveau revers à domicile contre Amiens 1 partout en Ligue 1. Le PSG reçoit ce soir Montpellier. Lionel Messi sera encore une fois absent. Quant à Kylian Mbappé, c'est un début de saison difficile, contrasté on va dire. Il est critiqué par ses adversaires parfois même sifflé sur le terrain comme à Metz cette semaine, Jean-François Pérez.
Oui, c'est une phase de jeu anodine qui a tout déclenché. Un joueur messin était blessé. En voulant rendre le ballon, Mbappé a failli marquer un but gag à Alexandre Oukidja, le gardien adverse. Celui-ci l'a très mal pris. Et puis deuxième épisode en fin de match, le PSG gagne sur le fil 2-1. Mbappé vient chambrer Oukidja, déclenchant des échauffourées et une critique cinglante de l'entraîneur lorrain Frédéric Antonetti.
J'adore ce joueur, j'adore. Je trouve qu'il est très très fort. Mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble.
En difficulté avec le public français depuis l'échec de l'Euro et avec certains supporters parisiens dans le dossier du vrai-faux transfert au Real Madrid, le champion du monde reçoit le soutien appuyé de son entraîneur Mauricio Pochettino.
Kylian est un type merveilleux. C'est un grand compétiteur. Il veut toujours gagner. Et s'il y a bien une qualité qu'il possède, c'est l'humilité.
À défaut de faire taire les critiques sur son arrogance présumée, Kylian Mbappé répond sur le terrain. 4 buts, 3 passes décisives. Il est l'attaquant le plus efficace du PSG depuis le début de saison.
Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1. PSG Montpellier à suivre bien sûr ce soir dès 20h dans Europe 1 Sport. Il nous reste à voir la météo.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Alors, quel temps pour ce samedi, Valérie ?
Eh bien, pas de grosse chaleur, mais des températures plus élevées que la normale quand même. Alors, du côté du ciel, de l'Aquitaine à la Bretagne, jusque dans les pays de la Loire, les averses et les orages se succèdent jusqu'à ce soir. Près du golfe du Lion, les entrées maritimes obscurcissent le Languedoc-Roussillon, donnant des pluies d'abord faibles et puis plus soutenues au fil de la journée. Sur le reste de l'Occitanie, jusqu'au Massif central, ainsi que sur les Alpes du Sud, les passages nuageux vont s'imposer aussi plus tardivement et s'accompagner là aussi d'ondées ou de coups de tonnerre. Sur le nord et la façade est, jusque sur le bassin parisien, parisien. La matinée est calme, elle est lumineuse, excepté ce matin près de la Manche et des frontières du Nord à cause du brouillard et des nuages bas. Donc au nord et à l'est, nous allons rester au soleil, à l'ouest, sous les orages et la pluie.
Valérie, on regarde un petit peu les températures, ça donne quoi ?
Eh ben, ça donne actuellement des températures très contrastées, un peu comme le ciel. 20 à Nice et 8 à Rouen au même moment, avec 13 à Paris. Et cet après-midi, des maximales entre 20 et 23 près de la Manche et 23 à 28 en allant vers le sud, jusqu'à 32 tout de même sur l'île de Beauté.
Merci Valérie Darmon, à tout à l'heure. Allez, à suivre sur Europe 1 à 6h10, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet d'Auteuil. Puis Philippe Legrand reçoit l'océanographe Jacques Rougerie. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h13, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil que va se courir ce quintet, un steeplechase handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 5 à 8 ans qui en découdront sur la distance de 4400 mètres avec une favorite solide, Rod McStavell, le numéro 5, qui se recommande d'une excellente deuxième place obtenue le 23 août à Clairefontaine dans un quintet similaire, le grand steeplechase de la ville de Deauville, et comme elle a déjà prouvé son aptitude sur les gros obstacles d'Auteuil, elle devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entraîneur Daniela Mele. L'opposition sera constituée par les numéros 3 Feu d'Artifice, qui n'a pas manqué son retour à Auteuil en s'imposant avec la manière le 7 septembre, 4 Diffly River Anne, désormais à 100% de sa forme pour cet objectif, 9 Drop Flight, à ne surtout pas condamner sur ses deux derniers échecs, et 12 Dernier Cri, désormais idéalement placé sur l'échelle des poids de ce handicap. Enfin, les numéros 1 Vision de Maître, 8 Galet des Fossés et 6 Sergeant Peppers sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 5, 3, 4, 9, 12, As, 8 et 6.
C'est bien noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et tous les samedis matins, un invité, des archives, on regarde dans le rétro.
L'entretien de Philippe Legrand avec Croisi Europe, des bateaux à taille humaine au plus proche des beautés du monde.
Voilà une date, une histoire. Ce matin, l'océanographe et architecte Jacques Rougerie. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour à tous. Retour en Polynésie le 25 juillet 2021. Académicien des Beaux-Arts, architecte, océanographe, votre notoriété et surtout votre connaissance des océans font de vous l'un des spécialistes de la construction sur l'eau. Jacques Rougerie, il faut dire que depuis toujours, vous aimez la plongée sous-marine, l'harmonie avec la mer et la nature. Vous avez même fait partie des expéditions du célèbre commandant Cousteau. Jacques Rougerie, votre fondation à l'Institut de France récompense chaque année ceux que vous appelez les bâtisseurs du futur. Ce soir, vous avez choisi de revenir sur le voyage du président de la République en Polynésie le 25 juillet 2021. Une première, vous y étiez. Histoire, actualité, culture et environnement au programme. Les premiers mots d'Emmanuel Macron au micro d'Europe 1.
Je suis fier de ce peuple marin et guerrier. Je suis fier qu'il ait choisi de s'inscrire dans la France, mais de garder, de préserver, de résister pour protéger cette culture, ces arts, cette tradition, de les faire revivre.
Vous étiez, Jacques Rougerie, en Polynésie en juillet 2021. Une émotion, on le sent. Hein. Je le dis, les auditeurs ne peuvent pas évidemment voir votre visage, mais on sent en écoutant le président à la fois le souvenir de ce que vous avez vécu en Polynésie.
Avec beaucoup de sincérité, il était vraiment très ému. Je peux vous dire, dans tous ses discours, d'abord, il a été reçu, on a été reçu avec une chaleur humaine hors du commun par ce peuple polynésien, ce peuple de la mer. Et vraiment, ça a été des instants très, très forts humains.
Les traditions étaient là, même s'il fallait aussi garder
sur le futur, par rapport aux engagements sur le climat, par rapport à la montée du niveau des océans, parce que ça concerne évidemment la plupart des atolls des Tuamotu, entre autres, et d'un certain nombre d'atolls du Pacifique. Et puis, surtout, cette biodiversité, les coraux, la protection de la nature, et sachant que ce peuple est très, très proche de la nature, vit en osmose culturellement depuis toujours avec la nature. Et donc, ils veulent conserver ses racines. Et le président l'a très, très bien souligné.
Jacques Rougerie, on vous voit sur certaines images, en quelque sorte, murmurer par moments à l'oreille du président.
Non, n'exagérons pas.
Vous lui parlez de l'environnement, justement, et de la montée des océans.
Oui, entre autres, mais non, il avait tellement à faire, n'exagérons pas sur le murmure, simplement il est très à l'écoute. Il était très à l'écoute de cet engagement qu'il fallait prendre par rapport à la Polynésie. Et surtout, comment orienter la Polynésie dans un futur, à travers justement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se passe avec Internet et tout, ne pas faire de ce peuple un peuple qui est tourné uniquement par rapport au passé. Donc ce mélange entre le passé et le futur, c'était même le sens du musée que nous avons inauguré ensemble.
C'est votre musée, hein, la Polynésie vous connaît bien, Jacques Rougerie aussi, parce que vous êtes l'un de ces architectes qui a entre autres bâti ce musée de la mer.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'étais donc du voyage. C'est qu'on a inauguré ce musée qui est un écomusée sur l'environnement, la biodiversité, sur
la géologie. Pour éveiller, réveiller les consciences.
Et surtout, c'était ça. Le but de ce musée, c'est réveiller les consciences, projeter ces atolls, projeter... Donc tout ce territoire vers le futur par rapport à la biodiversité.
Alors ce musée, il est construit comment ?
C'est un écomusée qui s'appelle Fare Natura. Ce musée est situé à Moréa, sur l'île de Moréa qui est en face de Tahiti. Et ce musée est orienté autant sur les traditions, comme je disais, que vers le futur. Et donc, on a voulu, avec Sophie, créer une architecture.
Votre épouse ?
Oui, mon épouse, qui est architecte en même temps que moi, et qu'on a gagné le concours, parce qu'on a respecté les traditions polynésiennes à travers l'architecture de ces traditions et de cette culture ancestrale, et puis la projeter dans un avenir sur un écomusée qui s'oriente vers tout ce qui est développement durable, donc rentrer dans ces grands enjeux de demain par rapport au développement durable.
Je disais
énergie renouvelable, entre autres.
Je disais, Jacques Rougerie, en vous présentant qu'à travers votre fondation qui siège à l'Institut de France, chaque année vous récompensez justement ceux que vous appelez les bâtisseurs du futur. C'est important de faire ce lien entre, au fond, la tradition et demain.
C'est fondamental et c'est bien de transmettre. J'ai toujours voulu transmettre justement toutes ces recherches qu'on a menées à travers notre agence et maintenant l'agence que nous avons, Rougerie Tangram, le lab que nous avons sur la recherche sur la biodiversité, mais surtout aussi la recherche à travers la biodiversité sur le biomimétisme, c'est-à-dire le génie de la nature, comme disait Léonard de Vinci. Allez prendre vos leçons, vous rendez compte, il y a 500 ans, il disait allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Justement, la nature, c'est le futur.
Ne pas avoir peur de construire sur l'eau, ça c'est un de vos enjeux aussi.
Pas du tout, mais il ne faut pas construire n'importe comment, il ne faut pas construire comme on construit sur Terre, il faut respecter ce milieu, il faut avoir un engagement par rapport à ce milieu, c'est-à-dire vivre en osmose avec ce milieu d'une façon différente de quand on vit sur Terre. Un montagnard, il vit en harmonie avec la montagne, et bien là, il faut vivre en harmonie avec l'océan, avec cet élément liquide et avec cette biodiversité. Il faut complètement s'adapter à ce milieu et non pas l'inverse.
Jacques Rougerie, c'est pour cette raison que vous avez eu l'idée de créer le Sea Orbiter, cette espèce de sentinelle incroyable d'observation des fonds marins.
C'est une idée qui refait les jours en ce moment, c'est-à-dire cette sentinelle des océans pour observer le monde sous-marin 24 heures sur 24 en continuité et l'écouter dans ces grands courants océaniques pour comprendre justement les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, sur ces grands mouvements migratoires d'un certain nombre d'animaux à travers le Gulf Stream, par exemple. Donc c'est un bateau à la verticale pour 18 personnes qui va permettre cette observation sur des très très longues durées sous la mer.
Et un vaisseau sentinelle éco-responsable.
Éco-responsable, tout à fait. C'est-à-dire, bien entendu, tenant compte des énergies renouvelables à bord, tenant compte de tout ce qui sera à bord sera quasiment recyclable, donc tous les matériaux. Et puis la charte d'un mode de vie à bord correspondra justement à ces grands engagements.
Jacques Rougerie, je m'adresse là maintenant et pour conclure finalement au plongeur sous-marin que vous êtes, à l'homme qui observe depuis toujours les fonds marins. Vous avez vu des différences depuis entre ces fonds marins d'hier à l'époque de vos plongées avec le commandant Cousteau
oui,
et aujourd'hui
mais, Oui, c'est certain. C'est certain qu'il y a, il y a des différences, mais il faut faire attention au regard qu'on peut avoir, le côté romantique, indéniable. Mais quand on voit les réserves qui sont faites maintenant dans pas mal de régions du monde, on s'aperçoit que la faune revient. Donc quand on a la sagesse de respecter cette faune marine, on s'aperçoit que la nature est beaucoup plus forte, elle revient.
Jacques Rougerie, dans votre playlist, c'est comme ça qu'on va se dire au revoir, il y a entre autres cet hymne à la mer d'Éric Serra, Le Grand Bleu, on va en écouter un extrait. Merci d'être venu sur Europe 1, à la fois pour revenir sur ce voyage auquel vous avez participé en juillet 2021 avec le président de la République, direction la Polynésie, et puisque vous nous racontez sur cette actualité, bâtir sur la mer, mais pas n'importe comment, et l'observer avec votre scie orbiteur. À bientôt.
Merci à vous, Philippe.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici votre balade du samedi avec Marion Sauveur et Vanessa Azat. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Vanessa, vous nous emmenez en balade sous le soleil de Marseille. Et là, vous me faites plaisir.
Bah
on
oui.
va dans un paysage culturel, c'est-à-dire...
Vous allez mieux comprendre. Ouais. En plus, vous qui adorez Marseille, je sais pas.
J'adore.
Ouais, mais je sais pas si vous connaissez cet endroit.
Allez-y.
La Friche de l'Escalette.
Pas du tout.
Alors en fait, c'est à l'entrée du parc national des Calanques. Mmh. Vous êtes au milieu des ruines d'une ancienne usine à plomb. Et c'est devenu un lieu d'exposition et... Donc il y a un mélange de nature, de ces restes en fait du patrimoine industriel. Vous êtes au milieu des collines, c'est ouvert sur l'eau, la vue est absolument incroyable. Mmh. Et en ce moment il y a un parcours artistique, alors autour des bungalows de Jean Prouvé, ouais. mais aussi de trois artistes contemporains. Et c'est Eric Touchalhomme de la Galerie 54 qui les a sélectionnés. Et je lui ai demandé de nous parler de l'un d'entre eux dont le travail est assez onirique et moi qui m'a beaucoup plu.
Adrien Vescovi vit et travaille à Marseille depuis quelques années. C'est un jeune très prometteur qui expose dans pas mal d'endroits actuellement et qui récupère des vieux draps en lin, en chanvre. Et il les teint, il les découpe, il les réassemble et il fait de grandes tentures qui sont vraiment superbes, qui volent au vent. Ça s'appelle Soleil Blanc. C'est une œuvre très forte, surtout exposée là à Marseille, dans le Mistral, voilà, le soleil, le Mistral. Donc c'est une œuvre tout à fait évocatrice, ce que j'aime beaucoup.
Vous l'avez l'image là ou pas? C'est très très beau au cocher du soleil. Voilà.
On y va ou pas?
Ah oui.
Allez, au revoir.
Vous avez raison. C'est vraiment une belle entrée en matière pour se mettre dans le ton, pour commencer justement sa petite escapade sur Marseille. Et en ce moment, c'est ouvert tous les week-ends entre septembre et octobre.
Vanessa, vous avez une balade en particulier à nous conseiller.
Allez, moi,
dans
le
parc des Calanques.
Je vous emmène en randonnée sur le sentier du président. Alors c'est assez facile, c'est pas très long, 1h30
c'est
environ.
Où, ah
en
oui, fait, c'est tout au bout là-bas.
Tout au bout, voilà. Ouais. Vous partez de la Madrague de Montredon ouais. jusqu'à Calelongue. Ouais. En plus, vous marchez et vous surplombez comme ça le village ouais. des Goudes.
On arrive aux Goudes.
Ouais, c'est magnifique, je vais vous en reparler après. Ouais. Après, si vous avez envie de marcher un peu plus vite et un peu plus longtemps, vous allez évidemment jusqu'à Sormiou. Et c'est le moment idéal en ce moment, c'est l'été indien. Et ils organisent surtout des animations et des visites gratuites organisées dans le parc des Calanques, le parc national des Calanques, attention mmh. je précise, et ça jusqu'à mi-novembre. Et alors si vous êtes encore plus sportif que ça, ce qui est votre cas Thierry, vous devez faire évidemment votre
baptême
de plongée dans le parc, ou même une sortie si vous savez déjà plonger.
Super
parce qu'on est
plongé là-bas. Ouais.
Ben, voilà. Et Dune par exemple, je vous les recommande, c'est une association, ils sont très pros avec des tarifs assez accessibles.
Justement Vanessa, nos palmes, nos valises, on les pose on les pose où?
Eh bien, au Goud, ça va vous plaire. Au Tuba, alors pour 5 raisons. Donc, on est blotti dans ces calanques, hein, des Goudes. On est les pieds dans l'eau. On est dans un ancien club de plongée. C'est le spot de Jacques Mayol. Mmh. Et puis surtout, parce que Greg et Fabrice, deux quarantenaires, eh ben, ils ont fait de ce lieu une petite pépite pour les amis, pour les amoureux. C'est que du partage. Il y a des cabanons, il y a un restaurant, une terrasse, il n'y a plus qu'à plonger.
C'est tellement bon. On les embrasse, les Marseillais. Bon, allez, on va changer de lieu. On va aller vers le Lot-et-Garonne à présent avec vous, Marion. On se met à table. On va déguster avec vous un petit fruit à coque.
Et oui, la noisette, c'est en ce moment la pleine récolte et la majorité pousse sur les noisetiers dans le Grand Sud-Ouest, dans les régions Aquitaine et Occitanie.
Et ça a toujours été le cas ou pas, Marion?
Et non, la noisette est originaire d'Asie. Elle est arrivée en Europe au XVIe siècle. Et sa culture en verger, elle s'est surtout développée dans les années 70 dans le bassin de la Garonne. Les noisetiers se plaisent vraiment dans cette terre argilo-calcaire. Alors les noisettes sont généralement groupées par deux ou trois fruits. Ce sont
ça,
les trochets. Voilà, trochets. Les trochets.
Trochets.
Elles sont accrochées par une collerette dentelée elle qu'on appelle l'involucre. On essaye. Et lorsque la noisette arrive donc à maturité, elle se détache de l'arbre. Et la suite, c'est Sabrina Ogier qui nous le raconte. Elle est nocicultrice avec son mari Patrick Chassac à Beaugrasse, dans le Lot-et-Garonne.
La noisette, on la ramasse par terre, en fait, qui implique que derrière, on a des vergers au moment de la récolte, doivent être hyper bien tondus et propres. On va passer avec un endaineur, c'est un gros balai qui va ramener toutes les noisettes au milieu du rang. Et après, on passe avec un gros aspirateur qui va passer sur une grille, ça va enlever les petites branches, les petites feuilles, etc. Une fois qu'on a ramassé cette noisette, elle va passer dans un bain d'eau pour la nettoyer un petit peu. Et après, elle est mise dans des caissons qui vont passer au four pour la stabiliser, donc la sécher.
Parfait. Marion, on passe à la dégustation, allez.
Et noisette, bien sûr que vous pouvez croquer, mais bien sûr, elles sont en studio. Alors, avec la coque ou sans la coque, voilà Vanessa. Pour faire ressortir leur bon goût, vous pouvez les torréfier, ces noisettes. Vous les passez au four 15 minutes à 180 degrés. À la poêle, ça marche aussi.
D'accord.
Et puis, vous pouvez faire des pâtes à tartiner. Vous en avez sous les yeux. Sabrina Ogier en fait, sous la marque Le Casse-Noisette. On les trouve un petit peu partout en épicerie fine.
On dirait. Non, c'est bien meilleur que ce qu'on dirait.
Ils ne partagent pas. Il m'en propose pas du tout.
Mais attendez, il va vous en proposer. Vous pouvez aussi enrober vos noisettes à la poêle avec un sirop de sucre, un peu d'eau de sucre. Vous les enrobez, ça fait des petits chouchous comme sur la plage. Ouais, et puis si vous les voulez pour l'apéritif, vous rajoutez du curry, du cumin, des petites épices.
Vous mélangez.
Voilà, c'est et vous mettez ça à l'apéritif. Fleur de sel, vous n'oubliez pas surtout. Puis la noisette, elle accompagne très bien les plats. On peut réaliser un pesto si on remplace les pignons de pain, par exemple. Thierry, ça vous fait plein d'idées. Pour
très
ce
bien.
Week-end.
J'ai rien écouté, mais c'est parfait. Merci.
Moi, je prends le pot.
Les recettes seront sur europe1.fr.
Exactement. Marion Sauveur, Vanessa Zah. Est-ce que vous serez là demain matin?
Bien sûr.
On blanchit la campagne.
Et avec des noisettes.
Allez, à demain.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Et il est 6h30 sur Europe 1, nouvelle édition, signée Lénaïque Meunier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Une nouvelle tragédie au Mali, un soldat français tué, le 52e depuis 2013.
Primaire ouverte ou congrès fermé, les Républicains choisissent aujourd'hui leur mode de scrutin.
Dans la prochaine demi-heure, juste après ce journal, la photo de Paris Match et cette une d'Éric Zemmour avec sa conseillère qui a suscité de nombreux commentaires. Et puis votre invité à 6h45, Thierry, sera Christiane Lambert, c'est la présidente de la FNSEA.
La tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, l'ouest dans la grisaille, la façade est au soleil, le nord plus ou moins ensoleillé en fonction des passages nuageux, les températures entre 20 à Saint-Brieuc et 29 à Marseille.
À tout à l'heure, Valérie. On l'a donc appris tard hier soir, un nouveau soldat français est tombé au Mali.
Oui, le caporal-chef Maxime Blasco, tué au combat après des échanges de tirs avec un groupe terroriste. Pour Europe 1, le colonel Pascal Yanni, qui est porte-parole de l'état-major des armées, a livré quelques détails sur l'opération qui lui a coûté la vie.
Un groupe de commandos de la force Barkhane est héliporté sur zone pour être déposé au sol et conduire la reconnaissance de la zone où a été détecté ce groupe armé terroriste. C'est une zone boisée, relativement dense, où en fait on n'a pas des vues très profondes. La reconnaissance à pied commence et assez rapidement, on a un tireur embusqué qui prend à partie la tête du groupe de commando. En fait, il n'y a eu qu'un seul échange de tir qui malheureusement a coûté la vie au caporal-chef. Il n'y a pas eu d'autres blessés et le tireur embusqué a été neutralisé immédiatement après. Le caporal-chef Maxime Blasco, il allait avoir 35 ans. Il était à son quatrième engagement dans Barkhane en 3 ans. Le président de la République lui avait remis la médaille militaire le 18 juin 2021, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je le souligne, pour un caporal-chef de 35 ans.
Oui, d'ailleurs, c'est dans un communiqué que l'Élysée a évoqué cette émotion particulièrement vive du chef de l'État, justement après cette remise de médaille militaire il y a 3 mois. Depuis 2013, 52 militaires français ont été tués au Sahel et la France vient d'entamer le désengagement partiel de la force Barkhane dans la région.
La politique, c'est jour de vote chez les Républicains, mais attention, ce n'est pas pour se choisir un candidat.
Non, dans un premier temps, il faut déterminer de quelle façon la droite choisira celui ou celle qui défendra les couleurs à la présidentielle. Faut-il passer par un congrès, par une primaire? Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour.
Alors c'est pas très compliqué, hein, les militants ont le choix entre deux options.
Oui, première option, une primaire ouverte aux sympathisants de la droite, mais qui n'aurait pas tout à fait la même forme qu'en 2016, puisque cette fois le vote serait électronique. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin sont tous les quatre favorables à cette option, susceptibles selon eux de rassembler un maximum de Français autour de leur projet et de créer un élan dans la campagne. La seconde option, c'est un vote en congrès réservé aux 82 000 adhérents, option qui semble privilégiée par les militants si l'on en croit les résultats de l'enquête IFOP pour les Républicains rendus cette semaine. Ce mode de scrutin est également plébiscité par Xavier Bertrand et ses soutiens, car le candidat nordiste a toujours dit son opposition à une primaire ouverte et il pourrait alors accepter de se présenter face aux militants. Il est pour l'instant, selon les sondages, celui qui offrirait les meilleurs scores à la droite au premier comme au second tour. Mais l'écart avec les autres candidats est serré. Le choix des militants sera connu ce soir à 18h.
Les précisions d'Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Les écologistes, les Naïcs aussi, sont à l'heure du choix.
Oui, qui l'emportera, Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau? Deuxième tour ce week-end de la primaire ouverte chez Europe Écologie Les Verts. Deux candidats, deux visions de l'écologie aussi. Yannick Jadot, c'est lui qui était arrivé légèrement en tête la semaine dernière.
10 jours après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale des soignants, ce constat, la grande majorité d'entre eux est vaccinée.
Oui, à 97% notamment dans les EHPAD, mais pour trouver les 3% restants, eh bien c'est un petit peu la pagaille dans les services. En conséquence de quoi, les agences d'intérim spécialisées croulent sous les demandes, comme celle du réseau Vitalis Médical. En une semaine, 1300 demandes ont été effectuées. Damien Tardivon est le directeur du développement de ce réseau d'intérim.
On a eu beaucoup de demandes ces derniers temps, un client EHPAD, un client hôpital ou clinique. On a eu l'exemple encore récemment d'une pharmacie. Le gros des demandes va être sur les métiers infirmiers et soignants, mais on a aussi des demandes de secrétaire médical ou de temps en temps de médecin. On a un petit peu de mal à suivre, mais on se débrouille quand même plutôt pas mal. On arrive toujours à trouver des solutions alternatives, mais malheureusement, quelques demandes reste en attente, c'est sûr. Ça ne fait qu'augmenter le flux déjà important qui est là, d'une part avec la période estivale et également avec le contexte du Covid.
Et propos recueillis par Élise Dangean pour Europe 1, j'ajoute que la décrue par ailleurs se poursuit à l'hôpital. Santé publique France nous apprend que les hospitalisations sont en baisse de 12% en une semaine dans l'Hexagone. En revanche, inquiétude en Guyane où 21 personnes sont mortes cette semaine du Covid, du jamais vu même pendant la première vague.
Alors vous souhaitez peut-être faire un pas vers l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Le salon Franchise Expo Paris va peut-être pouvoir vous aider.
Il débute aujourd'hui, porte de Versailles, c'est l'occasion de rencontrer des investisseurs, des créateurs d'entreprises ou même des commerçants. Aurélien Fleureau vous prend par la main ce matin pour tout vous expliquer.
Fleurs, chocolat, immobilier, automobile, bâtiment, restauration, sport ou encore beauté, il y en a toujours pour tous les profils, des domaines variés et puis un accompagnement solide. Vous ne partez pas tout seul à l'aventure. Voilà notamment ce qui attire, selon Sylvie Gaudy, la directrice du salon Franchise Expo Paris.
On est en croissance de plus de 20% des demandes de candidature par rapport à 2020, qui était déjà une année record. La franchise, c'est, on va dire, un des moyens peut-être qui facilite l'entrepreneuriat, parce que le système franchise, ben, c'est on vous forme, on vous apporte un savoir-faire, on vous apporte un concept éprouvé. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile et peut-être plus rapide.
Il y a ceux qui misent sur une valeur sûre, une enseigne reconnue, et puis ceux qui se lancent après le succès de leur propre entreprise. C'est le cas de Sébastien Damenot, cofondateur de Monsieur Albert, la première chaîne de restauration spécialisée dans le hot dog made in France.
Notre métier s'est complètement transformé à partir du moment où on est devenu franchiseur. On n'était pas sûr d'y arriver, on n'avait pas une garantie d'y arriver, mais ça a toujours été dans notre esprit quand même de franchiser le concept dans la France entière.
Pour Monsieur Albert, comme pour de nombreuses franchises en croissance, maintenant que le plus dur de la crise sanitaire semble passer, le rythme d'ouverture envisagé est d'environ 10 par an.
Les précisions d'Aurélien Fleureau et le salon se tient jusqu'à mercredi.
Alors direction Angers à présent, Lénaïque, où nous allons suivre un match un peu particulier.
Oui, alors vous ne le savez peut-être pas, hein, Thierry, mais c'est la journée mondiale des sourds aujourd'hui. Et au SCO, le club d'Angers, une formation de supporters composée de sourds et muets, assiste à tous les matchs du club. Parfois c'est un peu cocasse, écoutez ce reportage de Charles Guillard.
Est-ce que je pourrais avoir une passe sanitaire, merci.
Billet du match, QR code, fouille, pour tout supporter, l'entrée au stade est une succession de formalités.
Non, c'est le passe sanitaire que je veux, c'est pas la place.
Mais quand Samuel Derrien présente le mauvais document, cela peut parfois être difficile pour le personnel d'accueil de se faire comprendre et surtout entendre, car Samuel est membre d'un groupe de supporters sourds et muets. Alors pour suivre une rencontre en tribune, pas de souci, tout est très visuel, mais lorsqu'une information importante est transmise par le speaker... c'est plus compliqué.
Si on voit que les autres supporters ont un comportement un peu différent, bah, on va les suivre.
Marion Lambert est interprète, elle traduit le propos de Samuel Derrien.
Et si y a une info plus précise, des fois on écrit aussi sur nos téléphones, on demande aux supporters entendant, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils écrivent sur le téléphone pour nous répondre. Ce qu'on rêverait, c'est qu'on ait toutes les infos sur un écran.
Pour Christophe Borda, aucun souci, le directeur du développement d'Angesco va même plus loin.
On pourrait envisager à chaque match montrer un geste, le signe, qui pourrait être repris par l'ensemble du public.
Et le club propose même d'organiser une rencontre entre ses supporters et les joueurs dans les toutes prochaines semaines.
Ok, merci, bon match.
Angers, Charles Guyard, Europe 1.
Et Angers qui sera à 3 demain. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la 8e journée de Ligue 1 avec Saint-Étienne, Nice, Strasbourg, Lille, Lyon, Lorient, PSG Montpellier sans Messi et à suivre en direct sur Europe 1 et en intégralité.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Lénaïque Monnier qui signait le journal de 6h30. La météo tout de suite.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Valérie Darmon, chez moi, ça donne quoi aujourd'hui?
Bah, chez nous, ça donne pas, la température degrés. Des échelles, mais ouais. Je résiste pas. Je vous donne la température à Ajaccio, 30 degrés à Ajaccio quand même.
Mal, oui, c'est ouais. Pas mal. Ils ont de la chance,
les Corses.
Nos amis Corses.
Bon. Et 29 à Marseille aussi.
Ah
hein.
Là là, les Marseillais, mais c'est l'endroit où il faut être.
Ben oui, et à Nice aussi. Enfin, ça dépend.
Combien à Nice ?
Bref. À Nice, il fait 28.
Bon, d'accord.
Voilà. Et la mer est à 28 aussi.
Parfait. Et à Lille ?
Bon, revenons. Vous voulez Lille ?
Oui,
21 degrés tout de même
mal,
et pas de pluie. C'est pas mal. Les Lillois qui sont privilégiés comme les Parisiens avec... pas de pluie normalement aujourd'hui, ce sera pour demain ou dans la nuit prochaine. En tout cas, de la Bretagne au Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, là le ciel est très menaçant ce matin, avec quelques averses orageuses et puis le ciel qui va s'éclaircir rapidement avant une reprise plus marquée de l'activité orageuse en fin de journée, surtout en soirée. Le vent marin qui ramène aussi beaucoup d'humidité sur le Languedoc et sur les Cévennes, donnant un ciel couvert et quelques pluies faibles avant la mise en place des fortes pluies orageuses de la nuit prochaine, on en reparlera. Donc de la Normandie aux Hauts-de-France, au bassin parisien, au centre-Val de Loire. Les nuages bas sont fréquents avec quelques brouillards ce matin, mais ensuite le ciel devrait se dégager. Et Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, le soleil qui s'impose, même si le ciel se fait plus menaçant et surtout plus voilé au cœur de l'après-midi depuis le Massif central.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure. Allez, restez avec nous sur Europe 1 sur la photo de Paris Match, photo qui a fait polémique cette semaine. Et puis mon invité à 7h moins le quart, la patronne de la FNSEA, après le congrès de son syndicat agricole cette semaine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La photo de Paris Match, c'est tous les samedis avec vous, Caroline Mangès, bonjour.
Bonjour Thierry.
Directrice adjointe de la rédaction de Match. Bon, difficile de ne pas parler des photos dont tout le monde parle cette semaine, des photos prises à la Seyne-sur-Mer le 18 septembre dernier. Celle, bien sûr, sur d'Éric Zemmour avec sa jeune conseillère. Est-ce que ce sont des photos de paparazzi alors, Caroline ?
Ce sont des photos de photographes, de photojournalistes même, je dirais. Ce sont des photos qui parlent d'elles-mêmes.
Mmh.
Parce que...
Ça, c'est clair.
Éric Zemmour et Sarah Claffo s'enlacent peut-être, ils s'appuient sur elles sûrement.
Ouais.
Et c'est exactement le propos de notre enquête, c'est-à-dire de dire combien cette conseillère très très proche de lui est importante dans la galaxie Zemmour.
On va en parler parce qu'il y a l'article en effet avec l'enquête à côté de ces photos. Pourquoi les avoir publiées ces photos d'abord ?
Ça fait longtemps qu'on a commencé cette enquête sur Sarah Claffo, c'est-à-dire à peu près l'été dernier quand on a fait une première enquête sur les réelles intentions de Zemmour, puisqu'on ne savait pas à l'époque s'il irait ou il n'irait pas, et on avait dit et écrit.
Mais là, on n'est plus dans le Paris Match traditionnel, c'est-à-dire que vraiment, là, pour le coup, bah, Zemmour...
Si, c'est le Paris Match traditionnel, le Paris Match
des photos.
Bah, on a révélé l'existence de Mazarine, on a fait quelques goûts comme ça avec Ségolène, c'est historique.
Mais là, vous dites finalement, Zemmour, il est marié, il a des enfants, ça va avoir aussi des conséquences.
Non,
on ne
s'est pas
lui,
dit ça, parce que d'abord, rien n'établit au-delà de cette photo de proximité, etc., une relation amoureuse entre les deux. Donc ça reste un duo.
Ils sont très proches.
Bah, ils ont le droit d'être très proches.
Oui, comme des amis.
Mais je ne sais pas, il faut leur demander.
Bon, d'accord. En tout cas, Zemmour porte plainte. Il savait pourtant qu'il y avait tout autour de lui, parce que c'était un jour, c'était son premier meeting.
Alors,
à Toulon.
Week-end
donc, il y avait
médiatique,
des journalistes, beaucoup
63 journalistes accrédités.
Bien sûr.
Début de lancement de campagne, même s'il fait semblant, etc. Il s'en cache moins depuis le débat de jeudi avec Mélenchon. Mais il est très clair que cette première signature de son livre, qui fait un carton d'ailleurs, je crois qu'il a plus de 80 000 ventes en un temps record, et le début de sa campagne, une sorte de meeting. Il a 63 journalistes au Basque. et il se balade sur la plage tranquillement avec cette...
Trois mots pour terminer, il y a bien sûr toute l'enquête derrière, on découvre cette conseillère donc qui est jeune, qui travaille auprès d'Éric Zemmour, qui lui prépare des fiches. Clairement, il est en campagne, clairement, c'est sa conseillère, ça y est, c'est parti.
Clairement, c'est la cheville ouvrière, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été interrogées par Émilie Lanez disent qu'elle est incontournable dans le dispositif Zemmour. 28 ans, énarque, un réseau fantastique qu'elle met au profit de cet homme. Très, très misogyne, d'ailleurs, par ailleurs, dans certains de ses propos, donc ça nous a un peu étonnés.
C'est dit. Les photos sont dans Paris Match, bien sûr, avec vous, Caroline Mangès. Merci à vous, merci, grand merci.
Merci Thierry.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
C'est l'interview de ce samedi matin sur Europe 1. C'était le congrès de la FNSEA cette semaine à Niort. La présidente de du syndicat majoritaire chez les agriculteurs est ce matin sur Europe 1. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Deux points que l'on va développer, si vous le voulez bien. D'abord, la proposition de loi pour protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée cette semaine. C'est un bon point pour vous ? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les agriculteurs ?
C'est une loi qui vient corriger la première qui n'était pas efficace.
La loi Egalim 2, hein, précisément.
Beaucoup contournée.
Ouais.
Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Il y a une obligation de contrat entre les agriculteurs et les industriels. Mmh. Et il y a une obligation de retour de valeur aux agriculteurs. C'est-à-dire que le prix payé pour les productions agricoles de base ne peut pas faire partie de la négociation entre industriels et distributeurs ensuite. Parce qu'elle était trop souvent la variable d'ajustement et les prix étaient écrasés au détriment des producteurs. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les marques de distributeurs, qui représentent aujourd'hui 30% des ventes, n'étaient pas concernées par la loi Egalim 1.
Oui.
Elles vont être désormais concernées. Il faut que ça tienne jusqu'au bout. Et puis, enfin, il y a un encadrement de l'utilisation du drapeau français pour éviter les détournements trop nombreux que l'on voit, élaborés en France, transformés en France, écrits en tout petit sur un énorme drapeau qui trompe les consommateurs.
Vous pensez que la grande distribution va jouer le jeu ?
Elle nous a tellement habitués à ne pas jouer le jeu qu'on peut en douter. Toujours est-il que c'est un renforcement, c'est un cran supplémentaire. Ça va les obliger certainement à être beaucoup plus transparents sur ce qu'ils font. Mais il y a aussi une juridiction qui viendra gérer les conflits et sanctionner davantage.
Vous auriez aimé que cette loi Egalim 2 aille un peu plus loin sur certains points ?
Nous aurions surtout aimé qu'elle aille plus vite, parce que ce qui est dans la loi Egalim 2 aujourd'hui, c'est ce que nous avions proposé il y a 4 ans pour la première loi.
Ouais.
Donc il faut surtout qu'elle soit votée là maintenant. La commission mixte paritaire se réunit le 4 octobre. Il faut qu'elle soit opérationnelle pour les négociations commerciales de 2022 qui commencent en octobre.
Madame Lambert, on sent votre voix fatiguée après 3 jours de congrès à Niort. Hein. Autre sujet qui a été abordé lors de ce congrès de la FNSEA, celui des bassines, c'est-à-dire des retenues d'eau pour pouvoir en avoir de l'eau quand il en manque, notamment bien sûr l'été. Vous avez eu le soutien du ministre de l'Agriculture qui était présent sur place. Hein.
Oui, le ministre de l'Agriculture est venu clôturer notre congrès et a dit clairement on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. C'est aussi ce qu'a dit Mme Delga, la présidente de région, qui s'est dit présidente de région de France, le président Rousset qui a envoyé une vidéo. Et donc, il est très clair que beaucoup de pays aujourd'hui, européens et ailleurs, s'organisent pour stocker de l'eau quand elle tombe en pluie diluvienne et pour pouvoir l'utiliser quand elle est rare et qu'il y a des sécheresses. Ouais. On l'a bien vu ces derniers temps. Les 2 dernières années, nous avions eu des sécheresses catastrophiques dans 80 départements. Et cette année, il y a eu de la pluie en abondance, voire en surabondance, on ne la stocke pas. Donc là, dans le cas des bassines, il y a eu travail consensuel avec l'autorité préfectorale, concertation, France, Deux-Sèvres Nature Environnement, l'association environnementale a validé le projet. En plus, il y a eu un recours et la juridiction compétente a validé le projet. Après, c'est une question d'ordre public. Quelque chose qui est autorisé doit pouvoir se réaliser et il faut que les réserves d'eau puissent se faire là où il y a eu 10 ans de travail pour les réaliser. Préparer les études.
Bien sûr. Christiane Lambert, on est à 7 mois maintenant, la présidentielle. On sait combien, bien sûr, l'électorat des agriculteurs est précieux pour chaque candidat. Quel bilan vous tirez du quinquennat à Macron, vous ?
Nous avons travaillé avec le président de la République qui avait fixé comme priorité le retour de valeur aux agriculteurs. Pour Egalim 1, échec, une deuxième revient. C'est rare que sur un mandat, on renforce une loi qui n'a pas marché. Nous avons un ministre de l'Agriculture qui est aujourd'hui à l'écoute. Il vient de décider... la gestion des risques en agriculture, c'est une demande que nous avions depuis 10 ans. Bon, je vous avoue que c'est précieux d'avoir un ministre de l'Agriculture qui est ingénieur agronome.
Ouais.
Ça nous gagne du temps en explication, ça n'a pas toujours été le cas.
Ouais.
Il est jeune, il a la compétence aussi au niveau européen. La France préside l'Union européenne l'année prochaine, au 1er janvier 2022. Et il a un gros chantier sur lequel nous l'attendons vraiment, c'est la réciprocité des obligations. L'Europe se crée des obligations sanitaires, bien-être, environnement, oui. Mais laisse rentrer sur son territoire des produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent rien. Ce n'est pas que vrai pour l'agriculture d'ailleurs. Hein. Regardez comment le textile et la chaussure se sont effondrés en Europe en important des produits low cost.
Ça, c'est le talon d'Achille.
Les consommateurs adorent. Hein.
Ouais. C'est le talon d'Achille du quinquennat Macron. Ça veut dire qu'il reste 7 mois. Ça peut être faisable dans les 7 mois qui arrivent?
En tout cas, la présidence française démarre au 1er janvier. Bon, elle va être courte parce que la campagne électorale et l'élection présidentielle va l'amputer un petit peu. Mais il a déjà commencé à travailler. Je pousserai en tant que présidente européenne des agriculteurs. Il faut vraiment qu'on arrive à dire on ne peut pas en France vouloir faire toujours plus, toujours mieux, mais laisser les frontières passoir. Sinon, on effondre toute notre économie agricole. Et quand l'agriculture a disparu d'un territoire, vous savez, souvent, elle ne revient pas.
Bien sûr. Dernier point rapidement, Christiane Lambert. On parle beaucoup de manque de main-d'œuvre en ce moment. C'est le cas également dans votre secteur, notamment dans les vergers, je crois. Pourquoi il y a ce manque de main-d'œuvre? Pourquoi ça n'attire plus finalement?
Bon, il y a le même manque de main-d'œuvre dans les restaurants en ce moment.
Exact.
Il y a un problème tout simplement de personnes qui veulent moins travailler, probablement parce que certaines aides pour rester chez soi sont plus intéressantes que d'aller travailler. Nous avons pris position pour l'assurance chômage réformée au 1er octobre. J'espère que ça se fera et que ça ramènera un peu plus de personnes au travail. Oui, nous avons 60 000 postes de saisonniers à pourvoir. Oui. Et nous recherchons, nous avons lancé beaucoup d'initiatives. Quand les gens viennent travailler dans les vergers, dans les vignes, ils sont contents. Ils apprécient énormément ce travail en extérieur et puis ce travail en équipe. Et donc voilà, nous avons redonné de l'attractivité à nos métiers par un certain nombre d'améliorations, notamment dans les conventions sociales, dans l'accueil de ces personnes. Mais il faut des bras pour ramasser les pommes, les fraises, elles ne deviennent pas toutes seules dans les barquettes.
Appel lancé ce matin sur Europe 1. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA. Grand merci à vous, madame. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bonne journée.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h54 à 7h, vous avez rendez-vous avec Thomas Lequertier. De la musique tout de suite, avec Louane pour vous accompagner.